Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Salut à tous, c'est parti, on est de retour sur Sud Radio. Alors, j'allais dire deux entrepreneurs, oui, mais il y en a un, c'est son porte-parole, ou plutôt son ambassadrice, que vous entendrez, entrepreneur chinois dans les batteries. Ça vaut le coup de l'écouter quand même quelques instants. Et puis ensuite, pour le coup, un entrepreneur qui a déjà fait ses preuves et qui nous promet la révolution de l'éducation. On va voir ça. Sylvie Ouziel est avec nous. Donc, vous êtes présidente internationale de Envision Digital. Vous allez nous présenter Envision Digital, d'ailleurs, groupe chinois. Ambassadrice, ça vous va aujourd'hui ?
Donc, effectivement, on a été créé il y a 13 ans par un entrepreneur visionnaire qui est un individu chinois, mais qui a étudié en Angleterre, qui était banquier d'affaires à Londres, qui a fait la London School of Economics, qui vit entre Shanghai et Singapour et qui, effectivement, a un passeport chinois. Bon, il a fondé une activité d'éolienne, qui maintenant est leader des ventes en 2020, qui a très bien réussi.
Notamment, quoi dans l'éolienne, parce qu'il y a
les éoliennes, en fait, il a conçu, d'ailleurs, en Europe du Nord, de nouvelles éoliennes qu'il a introduites notamment sur le marché chinois. Et maintenant, on a des éoliennes en Amérique du Sud, en Asie et aussi en France.
Les éoliennes, ça veut dire vous
absolument.
Construisez aussi.
Nous concevons, construisons, installons des éoliennes. On vient de démarrer nos premières éoliennes d'ailleurs au nord de Dijon, en Bourgogne, en France. Alors nos éoliennes, elles ont deux particularités. La première, c'est qu'elles sont intelligentes. Donc il a vendu avant tout le monde ce concept de smart turbine. Elles sont truffées de capteurs, d'AI et d'IoT, d'intelligence artificielle et d'objets connectés, pour optimiser la production d'énergie, la maintenance, aussi prédire de manière très précise ce qu'on va injecter dans le réseau. Donc on a une solution de météo géolocalisée, 100 mètres par 100 mètres, avec un quart d'heure de précision pour prévoir le vent, la pluie, les ensoleillements, etc., qui permet vraiment de savoir ce qu'on va injecter. C'est très important parce qu'en Chine, il y a des pénalités de réseau très élevées si on n'injecte pas ce qu'on avait signalé qu'on allait injecter, parce que ça crée évidemment des complications au niveau du réseau pour équilibrer demande et supply, demande et fourniture. Et donc, ces atouts finalement d'avoir des éoliennes connectées, intelligentes et fiables sur le plan de leur production, lui ont permis de devenir numéro un des ventes et après de s'exporter au Vietnam, au Mexique, en Argentine, dans plein d'endroits très intéressants.
Et donc, sur cette base d'éoliennes derrière, vous développez ce qui est d'ailleurs l'adjuvant indispensable, l'activité de batterie.
Alors, chronologiquement, en fait, l'activité logicielle, qui elle est basée à Singapour, est co-investie par un fonds d'investissement californien qui s'appelle Sequoia Capital, qui est spécialisé dans les nouvelles technologies, comme vous le savez.
Très connu.
Très connu. Donc, singapourien, basé à Singapour, avec un investisseur américain, et toujours anglais derrière, c'est une autre société. En fait, autour des anglais, il a constitué cet écosystème de sociétés autour du développement durable. Et donc, cette deuxième activité, elle utilise la combinaison de l'intelligence artificielle et des objets connectés, les IoT, pour optimiser l'énergie de bout en bout. Donc on veut un peu être l'Android de l'énergie. Donc on a de la production éolienne, solaire, hydraulique, on a du stockage, on a de l'orchestration de tout ça, et on a aussi de l'efficacité de la consommation, efficacité des bâtiments, des infrastructures, des usines, des ports. On a 180 gigawatts
d'assets. C'est beaucoup de choses quand même ça, Sylvie, parce que je vois passer, dans ma tête là, je vois passer les activités de énormes industriels pour faire ne serait-ce que les pales des éoliennes. Enfin, elles sont faites en Chine à ce moment-là, et elles sont celles qui vont tourner à Dijon là.
Évidemment, on sous-traite, on est ensemblé, on conçoit et on ne fabrique pas tout nous-mêmes.
Puis ensuite, vous avez l'efficacité énergétique de l'air électrique. Ouais. Ensuite, vous allez donc, on va parler des batteries, qui est l'activité rachetée à Nissan.
La troisième activité, c'est les batteries. Et effectivement, avec un peu une double vision. La première, donc cette activité est basée au Japon, c'est l'ancienne activité captive de Nissan. La première vision, c'est de dire le véhicule électrique va être un levier essentiel de la transition énergétique. Et là, moi, c'est mon credo personnel, et j'en suis absolument convaincue, ça va basculer par ce levier. Les consommateurs ont basculé dans leur tête. La législation, notamment européenne, sur la taxe carbone, pousse vraiment les constructeurs à électrifier leur gamme. Et quand on une entreprise, qu'on souhaite se décarboner, qu'on souhaite envoyer un signal aux collaborateurs, aux clients, le plus facile, entre guillemets, c'est quand même de passer à la politique de la flotte totalement électrique. Et on le voit dans les chiffres, on voit des croissances de 50-60%, 9% des ventes de véhicules en France, c'est énorme. Donc moralité...
Non, mais vous avez bien précisé, 50-60% sur des volumes, et puis des volumes exceptionnels qui sont encore inférieurs à 10% du marché quand même.
C'est vrai, 9% en France, À ce jour, dans le monde, sur le premier semestre, il s'est vendu quand même 1 million de véhicules électriques. Au niveau global, ça commence à peser.
Il y a une histoire, Sylvie, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est Vincent Bolloré, le premier, qui m'en a parlé il y a 10 ans. La batterie peut faire la pointe quand on allume le four, et on sait que c'est la période de tension en février pour tous les réseaux électriques de l'hémisphère occidental, en tout cas, là où c'est l'hiver en février. Ça aussi, c'est quelque part dans la démarche de la démarche industrielle que vous avez ?
Alors ça fait tout à fait le lien avec la deuxième raison pour laquelle on a racheté les batteries de Nissan, qui est que plus le renouvelable prend une part importante de la production d'énergie, moins on peut le contrôler, parce qu'on ne peut pas contrôler le soleil et le vent. Donc on a un vrai problème qu'on produit à un moment et on n'a pas forcément besoin à ce moment-là. On produit du solaire dans la journée, on a plutôt besoin de se chauffer, de s'éclairer le soir quand on rentre à la maison et de cuisiner. Donc comment stocker, faire tampon entre les deux ? Donc on voulait utiliser la technologie de Nissan pour créer des batteries stationnaires, des batteries dans les bâtiments, sur les réseaux qui n'étaient pas mobiles. Et aussi, évidemment, les batteries mobiles vont devenir des petites virtual power plants, des petites centrales électriques virtuelles qui vont pouvoir alimenter le réseau. Alors, alimenter de deux façons. La façon la plus simple qui est déjà possible aujourd'hui systématiquement, c'est en fait se charger au bon moment. Nous faisons déjà avec nos solutions. Et puis la deuxième chose qu'on fait aussi, mais qui nécessite un tout petit peu plus d'infrastructure, c'est ce que vous disiez, restituer de l'énergie au réseau, ce qui suppose des chargeurs et des compteurs un
c'est
peu
ça.
Particuliers.
C'est pas demain la veille.
Un déploiement massif est plutôt à l'horizon 2025. Maintenant, la Leaf, qui est la batterie équipée des fameuses batteries qu'on a rachetées à Nissan, est le premier véhicule en fait bidirectionnel. Elle permet le véhicule tout grid.
La batterie aujourd'hui, c'est plus de l'intelligence que de la chimie finalement. Aujourd'hui.
Nous, on croit beaucoup à la smartification de nos équipements. Alors, on avait commencé déjà il y a 13 ans avec les turbines. Donc là, les batteries, elles sont évidemment intelligentes. La chimie est très importante. On a beaucoup travaillé sur les chimies NMC, LFP. On travaille avec le LITEN, avec le CEA. Donc la chimie reste essentielle et très très importante. La constitution des modules, des packs, etc. Par ailleurs, il y a vraiment un sujet de smartification et nous, on le prend de bout en bout. C'est-à-dire qu'on a à la fois le battery management system, on développe des solutions pour que la batterie soit équilibrée et pour vraiment être le système de contrôle de niveau zéro, le plus sécuritaire inclus dans la batterie. Et ces types de battery management system sont développés en collaboration avec les constructeurs parce que les appels de puissance ont un impact très important sur la nervosité et l'expérience de conduite du conducteur. Donc, il y a le battery management system qui est vraiment de l'informatique embarquée ouais. avec la batterie. Ouais. Les contrôleurs qui font l'interface entre cette batterie et le véhicule, que ce soit un deux roues ou que ce soit une voiture. Et puis après, il y a le contrôle externe, donc tout ce qui est orchestration, qui est très important, c'est comment cette batterie va s'insérer dans un système d'énergie où on est dans un parking avec d'autres voitures électriques qui veulent se charger au même moment, il faut gérer les priorités, avec la consommation du bâtiment, et donc équilibrer tout ça pour éviter soit des blackouts, et les opérateurs de réseau font un travail d'intelligence temps réel impressionnant pour maintenir en permanence cet équilibrage. Il y a différents mécanismes,
d'accord, mais
différents
est-ce horizons. Plus vite, est-ce qu'on ne va pas trop vite autour des renouvelables ?
Alors, je ne pense pas qu'on va trop vite. Je pense qu'il faut prendre le problème de manière systémique. C'est-à-dire que c'est très bien d'injecter du renouvelable. Il y a ce sujet du fait qu'il ne soit pas contrôlable. Deuxième difficulté, deuxième complication, le renouvelable, c'est aussi de la génération décentralisée. Donc, c'est beaucoup de gens qui se mettent des éoliennes et des panneaux solaires sur le toit et qui, à un moment, vont s'effacer de la grid, en se disant, vont s'effacer du réseau, ouais. en se disant, bah, tiens, en ce moment, là, je vais consommer ma propre énergie ou j'ai chargé ma batterie, donc finalement, je me retire, de manière pas forcément très prévisible, ou vont injecter dans le réseau de manière décentralisée, en bottom-up, en remontant, alors que le réseau est plutôt dimensionné et configuré pour savoir bien gérer du top-down centralisé. Et puis, la troisième difficulté, c'est que ces petits véhicules électriques dont on parle, les comportements de chargement sont pas extrêmement connu, maîtrisé, historisé, modélisé. Enfin, on va voir comment les habitudes vont se mettre en place et tout ça reste encore à constater sur le terrain. Et donc du coup, quand on combine tout ça, le travail que fait le réseau d'équilibrage, il est très compliqué. Donc ça veut dire que le réseau, il faut l'aider de deux manières. D'une part avec des stockages, avec des batteries, et d'autre part avec surtout de l'orchestration, des demandes contrôlables, pouvoir dire au véhicule d'arrêter de se charger, pouvoir les scheduler, pouvoir prédire au réseau et lui promettre en agrégeant des véhicules, des profils qu'il peut anticiper par rapport auxquels il peut s'organiser. Parce que si on ne fait pas ça, on va finir par construire des énormes autoroutes, des très très gros réseaux obèses. Ce n'est pas bon pour l'environnement non plus. C'est très cher. La moitié de votre facture électrique ou 40% de votre facture électrique, c'est déjà du réseau. Et en plus, le problème qu'on voit en Californie, c'est que comme l'électricité est trop chère parce que la part du réseau est trop importante, les gens de plus en plus prosument, c'est-à-dire produisent et consomment pour eux-mêmes.
Et il faut quand même qu'on parle de vos usines, là. Donc, le projet, il est sérieux. Donc, l'idée, c'est monter, alors combien ? Parce que j'ai tout vu, 2, 3, 4, 5 usines, enfin...
Non.
Mais quoi, 1 milliard d'investissements industriels
alors,
en France, c'est ça
pour recadrer les choses, quand on a racheté cette activité, on a trouvé 3 usines, donc au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, et on avait comme plan à l'époque un plan de développement commercial, donc de développer cette activité pour d'autres constructeurs automobiles et aussi pour le fameux stockage stationnaire dont nous venons de parler, ce qui supposait d'avoir des nouvelles capacités de production. Donc le plan originel, c'était de faire croître la capacité de production en Angleterre et d'ouvrir une usine en Chine, une giga factory. Voilà. Elle fait 7 à 10 fois la taille des usines historiques. Donc, et elle fournit le stationnaire, notamment chinois, pour coupler aux éoliennes,
France,
pour régler le problème dont on parle.
Xavier Bertrand qui...
Et puis là,
faire défenseur voilà. De l'investissement industriel chinois. Moi, je veux voir ça avant de mourir, quand même.
En Europe, on s'est dit, l'Angleterre n'est pas forcément le meilleur choix, pour des questions de Brexit, mais pas seulement, pour des questions aussi de coûts logistiques, de frais d'approche. Et la France, finalement, pour desservir les usines françaises et espagnoles, est un très bon point de chute, si je puis dire. Il y a des compétences, il y a effectivement un approvisionnement électrique dont on parlait, qui reste très stable et très compétitif grâce
à l'Angleterre. On a les infrastructures et on reste quand même au centre de l'Europe, quoi.
Et quand on regarde la cartographie pour le moment des implantations d'usines de batteries, elles sont plutôt à l'est, et donc les usines françaises et espagnoles devront être desservis. Donc nous, on est effectivement intéressés par un projet d'investissement en France pour accompagner, on l'espère, nos succès commerciaux.
Merci Sylvie Houziel. La révolution de l'éducation, c'est tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Emmanuel Freund est donc avec nous. Bonjour Emmanuel, fondateur donc de PowerZ ou PowerZ d'ailleurs, c'est comme t'es dans un peu, totalement dans le monde du jeu vidéo.
Non, c'est PowerZ.
Il faut qu'on commence par raconter la démarche, parce que la démarche, on va employer des grands mots, elle est politique.
Elle est sociétale, c'est toujours, tu sais, c'est le truc un peu bête des startups, un peu rêveur. Comment tu changes le monde? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un impact? Comment tu changes tête, tu modifies quelque chose qui est là, c'est-à-dire ce qu'on voit, l'emprise des GAFA. Et là, avec en plus le Covid, avec une sorte de société qui se cherche, hein, on t'en parlait juste avant aussi, qui se cherche dans tous les sens, on se demande ce qu'on peut faire. On se demande ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui a un intérêt. Bon, il y avait toute cette idée-là, et il y avait cette idée d'avoir un impact, de faire quelque chose, de changer, et aussi de faire une sorte de société un peu différente, une sorte de société qui nous ressemble, avec des valeurs un peu plus européennes. On en parlait avec Octave Klaba, le président d'OVH. Quelque chose qui soit différent de ce qu'on voit aux États-Unis, différent de ce qu'on voit en Chine, qui nous ressemble un peu plus, d'une certaine façon.
Bon, et évidemment, l'éducation, c'est sans doute le plus important et le plus fondamental des endroits vers lesquels tu puisses te tourner.
Complètement. Et surtout, l'éducation. Et tu aperçois un truc qui est assez étrange, c'est que l'éducation n'aime pas la technologie et la technologie n'aime pas l'éducation. C'est-à-dire que la technologie, tu vas construire des moutons électriques, des voitures qui vont dans l'espace, des choses, du tout connecté partout, enfin plein de choses. Ça fait rêver, mais l'éducation pour la technologie, tu vas faire un truc pédagogique, tu es sûr de perdre ton auditoire. Quand j'en parle aux premiers développeurs, j'ai une idée là-dedans. On attendait mon grand nouveau projet d'une certaine façon, enfin les trois personnes qui m'aiment bien, tu vois, ma maman, mon papa et mon frère. Donc eux attendaient.
Ouais, je vais m'occuper d'éducation.
J'ai perdu l'éducation et puis. Ah ouais, ok. Non, c'est bien, c'est important aussi. Tu vois, tout le monde a son avis sur l'éducation, d'une certaine façon. Et l'ordinateur, pour l'éducation, c'est pas le meilleur ami.
Bon, alors, la solution, donc, c'est un jeu vidéo éducatif.
La solution, c'est un jeu vidéo éducatif. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je disais sur la technologie. Il y a un truc, même si l'éducation n'aime pas spécialement la technologie, les enfants la plébiscitent. C'est une sorte de super tétine géante, là où tu mets un enfant devant un écran, il y reste. Alors, c'est nocif, c'est tout ce qu'on veut, on peut se poser ces questions-là. Mais surtout, c'est un moyen. Est-ce qu'on pourrait pas rendre ça utile ?
Et donc, on se retrouve sur un modèle jeu vidéo. Alors, là, pour le coup, je ne suis pas ni en jeu vidéo, ni en éducation. Tu vois, je suis
bienvenue au club.
Si, jeu vidéo, quand même. Et donc, quoi ? Je vais progresser dans un univers ?
Oui, l'idée, c'est que tu évolues dans un monde virtuel, dans un monde, ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller là où tu veux. Par exemple, imagine que je veux t'apprendre 4 plus 5, 9, je t'apprends les additions. Et bien, tu vas aller chez le cuisinier, il va te dire, j'ai une recette, il me faut 10 carottes, j'en ai que 4 sur l'étagère. Est-ce que tu peux aller me chercher les carottes qui manquent ? Tu vas dans le jardin, tu vas chercher 6 carottes.
Et ça peut marcher comme...
Oui, il y a un vrai besoin. Oui, on y croit. Oui, surtout, ça n'existe pas. Alors pourquoi ? Ça existe en fait déjà dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, si, pour ceux qui connaissent, tu regardes, on sait faire, ça apporte un nom d'abord, un nom anglais horrible qui s'appelle le grinding, on sait faire répéter une action des milliers de fois alors que l'action n'a strictement aucun intérêt. Donc dans Minecraft, par exemple, tu vas miner du minerai, tu vois, donc répéter... Tu prends ta, il y a rien à faire, il faut pas être fort, faut pas. Tu prends ta hache, tu fais ton piolet, tu fais deux fois, et puis tu as un petit truc derrière. Et on peut te le faire, et tu as envie de le faire des milliers de fois. Or, des exercices de maths, t'as pas envie. Au bout du 10e, t'en as marre. Donc c'est comment transformer ça, en fait.
Comment ça va se développer maintenant ?
Alors un jeu comme ça, ça prend très longtemps à développer. C'est justement pour ça que ça n'existe pas. Ça prend 4 ans à développer. C'est pas une petite étape que tu fais. Ça prend 3-4 ans. Mais en fait, dans l'étape de développement du jeu, t'as plein de sous-étapes. Avec une première étape, par exemple, dans 3 mois. Là, ce qu'on appelle l'early access, là où déjà on va distribuer des premiers tests du jeu pour que les gens puissent regarder, tester, etc. Surtout qu'il y a un composant additionnel dans ce jeu-là qui est l'intelligence artificielle, qui est à peu près le seul domaine, là on s'y connaît un peu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, tu as une sorte de réflexion à l'intérieur qui va être une sorte de professeur particulier pour chaque enfant, avec qui les parents vont pouvoir interagir, pour savoir ce qu'a fait l'enfant, pour pouvoir diriger ça un peu mieux, pour pouvoir tout ce que tu veux. Donc, dans 3 mois, tu vas avoir déjà des choses à tester, et nous, ça va nous permettre aussi de construire le truc. De voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de construire cette intelligence artificielle.
C'est quelque chose d'absolument génial. Bon, mais alors Shadow quand même, pourquoi tu n'es plus à la tête de Shadow? Pourquoi tu t'occupes de ça alors que Shadow, ce n'est pas non plus Microsoft aujourd'hui? Il reste du boulot à faire.
Il reste plein de boulot à faire à Shadow. Il y a mon cœur, il y a toujours une partie de mon cœur qui est toujours dans Shadow aussi, évidemment. Je suis toujours actionnaire, je suis toujours au conseil d'administration de Shadow. Donc je suis encore très présent dans Shadow. Et effectivement, j'ai une sorte de... c'est mon bébé. C'est mon bébé, tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir, je l'ai fait grandir. Donc évidemment, quitter Shadow, c'est hyper dur. Alors pourquoi je quitte Shadow? En fait, on est arrivé à un moment où il y avait 2 écoles. On a levé plus de 100 millions, mais vraiment plus de 100 millions. Donc on a des actionnaires. Et là, ma position de doux rêveur, elle n'est pas toujours compatible avec quelque chose d'un peu rationnel, surtout du rationnel aujourd'hui. Tu en as déjà parlé des millions de fois, mais par exemple, dire que Shadow... Pour que ça vive, il faut énormément d'investissements. Il faut aller chercher les investisseurs américains. Parce que les investisseurs européens, ils vont pas suivre, ce qui est vrai. Hein. Je veux dire, quand on va chercher les fonds européens, la première chose qu'ils disent, un peu comme toi au départ, c'est « je comprends pas trop le projet, on sait investir dans du SaaS, on connaît pas ce genre de truc, donc s'il y a un Américain vient, on venira. » Comme s'il fallait faire venir des fonds américains. Donc, il y avait une stratégie du board, c'est facile. On va se focaliser un peu aux États-Unis, mais surtout on va continuer dans cette stratégie d'avoir un produit avec plein d'investissements et de faire venir des Intel, des Google, des choses comme ça, des gens comme ça. Moi, c'est une stratégie qui me plaît absolument pas. Question de valeur. Et j'avais monté avec Octave un truc. Là, on dit non, on va faire un truc européen qui est un peu plus cher, mais qui va être rentable. Et là, on n'aura pas besoin d'investissement, extérieur. Deux politiques, et on a commencé à se battre assez fortement au départ pour dire, moi, il faut un truc européen, il faut un truc rentable, il faut un truc plus cher. Et les autres, non, il faut un truc moins cher pour être plus compétitif. Il faut aller un peu plus chercher des Google, des Intel, etc. pour devenir une sorte de géant, un GAFA à nouveau, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Et on s'est battu pendant pas très longtemps, en réalité, pendant 1 an, de façon stratégique, hein, pas de façon...
Ça doit être compliqué.
C'était compliqué, mais de façon stratégique, pour découvrir que finalement la boîte avançait plus du tout, qu'elle était juste coupée en deux. Et à un moment, j'ai dit, bon, ben, ça sert à rien qu'elle soit coupée en deux. C'est mieux de suivre leur stratégie, qui est raisonnable en réalité. Bon, évidemment, je pense que je ferais mieux, tout mieux que les autres. Mais quand même, ça s'entendait. Stéphane Elio, qui est mon cofondateur dans ce projet aussi, bah, lui, il était tout à fait d'accord avec ça. J'ai une confiance complète en lui. J'ai dit, bon, ok, tu te démerdes. Faites votre truc, ça sera mieux que le reste.
Compris.
Et là, récemment, ils ont enfin fait des choses vraiment intelligentes pour le coup.
Larry Ellison, le patron d'Oracle, il a théorisé pour la première fois, non plus le SaaS, mais l'infrastructure as a service.
Donc, ce qui date d'il y a très longtemps, ce qui arrivait avant le SaaS. Hein.
Voilà, mais c'est Shadow.
Exactement.
Et donc, j'ai pensé à toi, je me suis dit, tiens, voilà. Infrastructure as a service, c'est en train maintenant de rentrer dans le...
Ça revient.
Voilà, dans le discours commun. Emmanuel Freund, on va suivre, hein, Emmanuel, les développements de Powers. Et nous, les amis, on se retrouve demain sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Effectivement, Stéphane Soumier, parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio et sur Bismart. Ce sera demain en direct à 19h30 sur Sud Radio, la suite des vraies voix qui font bouger la France. On parle de votre patrimoine, ses conseils de famille avec Stéphane Moller et Olivier Daudet sur Sud Radio.